Chapitre 9. Bataille. Althea jeta un regard sur le pont. Tout se passait bien. Le vent était régulier, Aaf était à la barre. Le ciel était d'un bleu clair et limpide. Par le milieu du navire, six matelots s'entraînaient à répéter une série d'attaques et de parades avec des bâtons. Bien qu'ils n'y mettent pas beaucoup d'entrain, Brachen semblait satisfait de la forme et de la précision de leurs évolutions. Lavoy les houspillait et les corrigeait à grands cris. Elle secoua la tête. Elle ne prétendait pas s'y connaître en combat, mais ses enchaînements bien huilés la déconcertaient. Une bataille n'était certainement pas aussi disciplinée que cet échange bien réglé de coups auquel s'exerçaient les hommes, ni aussi calme et tranquille que le tir des archers qui avait précédé. À quoi cela pouvait-il servir ? Néanmoins, elle tenait sa langue et, quand ce fut son tour, elle s'entraîna avec les autres en tâchant d'y mettre du cœur. Elle commençait à devenir un bon archer avec le petit arc qui lui avait été attribué. Pourtant, il était difficile de croire que tout cela pourrait être utile en cas de véritable combat. Elle n'avait pas fait part de ses doutes à Brachen. Ces derniers temps, ses sentiments à son égard étaient plus vifs. Elle ne voulait pas risquer de se laisser tenter par des tête-à-tête avec lui. S'il était capable de se maîtriser, elle aussi. C'était une question de respect, tout simplement. Elle écoutait le fracas cadencé des épées de bois alors que Cliff arpentait le pont en fredonnant une chanson de marin. À défaut d'autre chose, l'exercice empêchait l'équipage de faire des bêtises. Le parangon transportait davantage qu'un équipage, car Brachen avait enrôlé autant d'hommes pour le combat que pour la manœuvre du navire et des recrues supplémentaires qui compenseraient les pertes. Les esclaves clandestins étaient venus grossir encore leur nombre. Les logements bondés engendraient les querelles quand on ne gardait pas les hommes occupés. Assurée que rien ne réclamait son attention immédiate, elle bondit vers le mât. Elle se força à grimper à toute allure. Parfois, elle se sentait ankylosée à cause du manque d'espace. Une ascension leste vers le nid de pie lui dégourdissait un peu les jambes. Ambre l'entendit arriver. Elle paraissait toujours avoir une conscience surnaturelle de la présence d'autrui. Althea surprit le sourire résigné de bienvenue que son amie lui adressa quand elle se hissa sur le bord du nid de pie et s'assit à côté d'elle, jambes pendantes. « Comment te sens-tu ? » Ambre sourit tristement. « Très bien. Cesse de t'inquiéter. C'est passé. » « Je te l'ai dit, cette maladie va et vient, ce n'est pas grave. » « Althea n'était pas convaincue. Elle s'interrogeait encore sur ce qui s'était passé la nuit où elle avait laissé Ambre sans connaissance sur le pont. Celle-ci avait prétendu qu'elle s'était tout simplement évanouie et que les bleus sur sa figure étaient dus à sa chute. Pourquoi donc mentirait-elle? Si Lavoy l'avait assommée, elle ou Parangon s'en serait plaint depuis lors. Althea scruta son visage. Dernièrement, le charpentier avait supplié qu'on lui confie le poste de la vigie et le lieutenant avait accepté à contre-cœur. Si Ambre s'évanouissait là-haut et tombait sur le pont, elle ne s'en tirerait pas avec quelques bleus sur la figure. Pourtant, ce poste élevé et solitaire semblait lui convenir, car si le vent lui avait brûlé la peau à la faire peler, le teint en dessous était hâlé et resplendissant de santé, ce qui assombrissait ses yeux et accentuait la nuance fauve de ses cheveux. Althea ne l'avait jamais vue aussi éclatante de vitalité.
« Il n'y a rien à voir, »
marmotta Ambre mal à l'aise, et Althea s'aperçut soudain qu'elle la dévisageait. Elle feignit d'avoir mal compris. Elle parcourut l'horizon des yeux prétendument à la recherche de voiles. Dans ces îles, on ne sait jamais. C'est une des raisons pour lesquelles les pirates apprécient ces eaux. Un navire peut s'y tenir à l'affût et attendre sa proie. Avec toutes ses petites criques et ses anses, il peut se cacher n'importe où.
Comme là-bas, par exemple.
Ambre leva le bras et pointa dans une direction. Althea suivit le geste du regard, fixa l'horizon d'un œil critique, puis demanda « Tu as vu quelque chose ?»«
J'ai cru pendant un instant. »
La pointe d'un mât qui bougeait derrière les arbres là-bas. Althea plissa les paupières. « Il n'y a rien. conclut-elle en se détendant. Peut-être as-tu vu un oiseau qui volait de branche en branche. Tu sais bien que l'œil est attiré par le mouvement. La mer devant elle s'étendait en une perspective éblouissante de vert et de bleu. Les îles aux à-pics rocheux jaillissaient et déployaient sur leurs falaises abruptes une végétation luxuriante. Des torrents et des cascades dévalaient leurs pentes escarpées. L'eau ruisselante étincelait au soleil et se fracassait dans le ressac. C'était tout ce qu'on pouvait apercevoir du pont. Mais ici, au sommet du mât, on distinguait nettement les contours de la terre et de la mer. La couleur des flots variait selon la profondeur et la quantité d'eau douce qui surnageait. Les nuances de bleu indiquaient à Althea que le chenal était assez profond pour le parangon, mais plutôt étroit. Ambre était censée observer ces variations et avertir le timonier de la présence des bas-fonds. Des bancs de sables instables représentaient un des dangers légendaires des îles des pirates. À l'ouest, une multitude d'îlots saillants pouvait aussi bien être considérée comme telle ou comme les pics montagneux d'une côte submergée. L'eau douce courait perpétuellement dans cette direction, charriant sable et alluvions qui reformaient des bancs de sable et des bas-fonds. Les tempêtes qui battaient régulièrement la région balayaient et refaçonnaient ces obstacles à la navigation. Porter ces îles sur la carte était un labeur inutile. Les voies navigables s'ensablaient, devenaient infranchissables pour être emportées à la tempête suivante. Les risques du cabotage qui ralentissaient les vaisseaux marchands lourdement chargés étaient les alliés des pirates. Leurs petits navires, à faible tirant d'eau pour la plupart, étaient mus par des courants rapides autant que par les voiles et manœuvrés par des hommes qui connaissaient les eaux comme leurs poches. Durant tout le temps qu'Althea avait passé à parcourir les rivages maudits, elle ne s'était jamais aventurée aussi loin dans les îles des pirates. Son père les évitait comme il évitait toute fortune de mer. « Le profit qu'on tire du danger ne fait que te payer les intérêts en ennui, » répétait-il. Althea sourit.
« À quoi penses-tu ?»
demanda Ambre à mi-voix. « À mon père. » Ambre hocha la tête.
« C'est bien que tu puisses penser à lui en souriant maintenant. »
Althea acquiesça dans un murmure mais n'ajouta rien. Pendant un moment, elles restèrent sur le mât sans parler. Le nid de pie amplifiait le doux roulis du navire. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, elle avait toujours trouvé ce mouvement grisant. Mais la paix fut de courte durée. La question la démangeait. Sans regarder son amie, elle demanda « Tu es sûr que la voile ne t'a rien fait ?» Ambre soupira.
« Pourquoi te mentirais-je ? »
« Je ne sais pas. » « Pourquoi répondre à ma question par une autre question ?» Ambre lui fit face carrément.
« Pourquoi ne peux-tu admettre que je me sentais mal et que je me suis évanouie ? S'il s'était agi d'autre chose, crois-tu que Parangon se serait tu tout ce temps ?»
Althea ne répondit pas immédiatement. Enfin, elle déclara « Je ne sais pas. J'ai l'impression que Parangon est en train de changer. Cela m'agaçait quand il boudait ou qu'il faisait ses comédies. On aurait dit un gosse mal aimé. Pourtant, il y avait des moments où il semblait désireux de plaire. Il déclarait vouloir faire ses preuves, mais dernièrement, quand il lui arrive de m'adresser la parole, il dit des choses saisissantes. Il mentionne les pirates, il ne parle que de sang, de violence et de meurtre. Il a assisté à des tortures. Il te débite ça d'une telle façon qu'on a l'impression d'avoir affaire à un petit vantard qui ment délibérément pour choquer. Je ne sais même pas ce que je dois croire dans tout ça. Est-ce qu'il pense m'impressionner par la quantité d'horreur dont il a été témoin ? Quand je le provoque, il admet que ces choses sont affreuses, mais il raconte ses histoires avec une jubilation morbide. On dirait qu'il cache en lui un homme violent et cruel, qui se délecte des atrocités dont il est capable. Je ne sais pas d'où lui vient toute cette perversité. » Elle détourna les yeux et ajouta à mi-voix « Et je n'aime pas qu'il passe autant de temps avec la voile. »
Il serait plus exact de dire que la voile passe autant de temps avec lui. Ce n'est quand même pas Parangon qui vient le chercher. C'est le second qui va le voir. Et en vérité, la voile réveille ce qu'il y a de pire en Parangon. Il l'encourage dans ses rêves de violence. Ils rivalisent de cruauté en se racontant leurs histoires, comme si être témoin d'atrocité était une preuve de virilité. La voix d'Ambre devint presque inaudible. Il fait ça pour servir ses intérêts personnels. J'en ai peur.
Althea se sentit mal à l'aise. Elle avait subitement l'impression qu'elle allait regretter de laisser la conversation prendre ce tour.
On n'y peut pas grand-chose.
Vraiment ?
Fit Ambre en lui coulant un regard oblique.
Rachen pourrait l'interdire.
Althea secoua la tête avec regret.
Il ne peut pas, sans saper l'autorité de la Voy sur le navire. Les hommes l'interpréteront comme un reproche et... Et alors ? D'après mon expérience, quand un homme à un poste de commandement devient perverti, il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible. Althea réfléchit. Parangon n'est pas très subtil. Il dit ce qui lui passe par la tête. Les matelots, eux, sont plus prudents. Mais si la Voy influence le navire, tu crois qu'il ne fait pas la même chose avec l'équipage, surtout avec les tatoués? Il a pris beaucoup trop d'ascendant sur eux. À certains égards, ils sont comme Parangon. Ils ont été malmenés par la vie et l'expérience les a rendus capables de cruauté froide. La Voy mise là-dessus. Regarde comme il les encourage à se moquer de Clapeau et à le tourmenter.
Elle détourna les yeux vers la mer.
La Voy est dangereux. On devrait se débarrasser de lui.
Mais il...
commença Althea.
Elle fut interrompue par Ambre qui se leva d'un bond.
« Navire en vue !»
cria-t-elle en pointant le doigt. En dessous, sur le pont, la deuxième vigie reprit le cri et indiqua la même direction pour le timonier. Althea le voyait maintenant, un mât qui se déplaçait derrière une mince rangée d'arbres, sur une longue langue de terre, tout près de l'endroit qu'Ambre avait signalé plus tôt. Le navire s'était probablement caché là pour attendre l'approche du Parangon avant de passer à l'attaque.
« Des pirates !»
confirma Althea. Et elle hurla
« Pirates !»
pour alerter l'équipage en bas. Comme s'ils s'étaient rendus compte qu'on les avait repérés, ils déployèrent soudain le pavillon rouge à l'emblème noir. Althea compta 6 petites embarcations qu'on s'apprêtait à amener. Ce serait donc leur tactique. Les canots harcèleraient Parangon et l'aborderaient si possible, tandis que le navire essaierait de le forcer dans les bas-fonds. Si les hommes des canots parvenaient à envahir le pont de Parangon, ils pourraient le faire échouer et le piller à leur aise. Le cœur d'Althea battait à tout rompre. Ils en avaient parlé, ils s'y étaient préparés. Elle n'en demeurait pas moins saisie. Durant un bref instant, la peur l'étreignit avec tant de violence qu'elle ne put respirer. Les hommes dans ces canots feraient tout pour la tuer. Elle s'étrangla en avalant de l'air, ferma les yeux, puis les rouvrit tout grand. Ce n'était pas le moment de trembler pour sa vie. Le navire comptait sur elle. Brachen était apparu sur le pont au premier appel.
« Mettez tout dessus !»
lui cria Althea d'en haut.
« Ils veulent nous tomber dessus comme une meute de loups, mais on peut les distancer. 6 canots et le navire. Attention, bas-fond devant !»
Elle se tourna vers Ambre.
« Descends voir Parangon. Dis-lui qu'il doit nous aider à garder le meilleur chenal. Si les pirates s'approchent trop, arme-le. Il peut très bien réussir à écarter une embarcation. Je prends ton poste ici. Le capitaine s'occupe du pont. »
Ambre n'attendit pas son reste. Elle disparut en glissant le long des filins comme si elle n'avait fait que cela toute sa vie. Parangon arrivait à hauteur de la pointe de terre et les canots filaient pour l'intercepter. 6 hommes dans chaque embarcation tiraient les avirons, tandis que d'autres empoignaient armes et grappins en guettant le moment propice. Le pont de Parangon grouillait. Des hommes se précipitaient pour torcher de la toile, tandis que d'autres faisaient passer les armes et prenaient position le long des garde-corps. L'affolement qu'Althea constatait n'avait rien à voir avec la bonne coordination qu'elle avait espérée. Soudain, elle sentit l'impatience monter en elle.
La surexcitation l'étourdit, noya sa peur. Après toute cette attente, l'occasion se présentait enfin. Elle allait se battre, elle allait tuer. Tout le monde verrait ce dont elle était capable. Il la respecterait après cela.
« Oh, Parangon !» murmura-t-elle pour elle-même en comprenant soudain la source de ses émotions.
« Oh, navire, tu n'as plus rien à prouver à personne. Ne te laisse pas envahir par ça. »
S'il perçut ses pensées, il ne le manifesta pas. Elle se félicita de pouvoir dissimuler sa peur sous la bravade du navire. Tandis qu'elle annonçait d'en haut à Brashen la position des canots qui approchaient, afin qu'il puisse les éviter, Parangon réclamait le sang à grands cris. Ambre ne l'avait pas encore armé. Il vociférait, proférait ses menaces et s'agitait violemment, battant des bras aveuglément en cherchant une proie qui soit à sa portée. Comme le constata Althea depuis son perchoir, deux des canots mollirent en voyant et en entendant la figure de proue déchaînée. Les autres continuèrent sans se démonter. Elle les distinguait nettement à présent. Ils avaient autour du front des foulards rouges marqués d'un sceau noir. La plupart étaient tatoués. Ils hurlaient à plein poumon leurs propres injures au navire et brandissaient leurs épées. Althea ne discernait pas très clairement, en revanche, ce qui se passait sur le pont. Le gréement et la toile lui bouchaient la vue, mais elle entendait Brashen brailler des ordres et des jurons. Elle continua à crier la position des canots. Elle reprit courage en constatant que deux d'entre eux battaient déjà en retraite. Peut-être Parangon parviendrait-il à se faufiler entre eux. Brashen donnait des ordres pour les prendre de vitesse, mais la figure de proue se penchait de façon désordonnée et contrariait les efforts du timonier. De son perchoir, Althea entendit Ambre élever clairement la voix une seule fois.
« C'est moi qui décide !»
déclara-t-elle à quelqu'un sur un ton péremptoire. Brashen sentit son cœur se serrer. L'entraînement de l'équipage semblait avoir été totalement inefficace. Il chercha la voile des yeux. Le second était censé commander les archers. Il aurait dû aussi maîtriser l'affolement sur le pont, mais il était invisible. Pas le temps de le chercher. Il fallait que l'équipage soit opérationnel maintenant. Les hommes couraient dans tous les sens, comme des enfants indisciplinés jouant à un jeu violent. Devant ce premier défi, la plupart étaient redevenus les mauvais drôles que Brashen avait recrutés à Terrilville. Il se rappela avec chagrin son plan bien ordonné. Une équipe pour défendre le navire, une seconde prête à attaquer, tandis qu'une troisième veillait à la manœuvre. Les archers auraient dû être alignés le long du garde-corps. Ce n'était pas le cas. Il estima qu'environ la moitié des hommes se souvenaient de ce qu'ils devaient faire. Certains bâillaient aux corneilles ou se penchaient par-dessus la lisse en criant et en faisant des paris, comme s'ils assistaient à une course de chevaux. D'autres hurlaient des injures aux pirates et agitaient leurs armes dans leur direction. Il vit deux hommes se disputer une épée comme des gamins. Le navire était pire que tous. Il se vautrait au lieu de répondre au timon. Les pirates approchaient de minute en minute. Il renonça à la distance qu'un capitaine doit observer avec son équipage. Aff, à la barre, semblait le seul concentré sur sa tâche. Brashen parcourut rapidement le pont. Un coup de pied bien allongé sépara un groupe de gobe-mouches.
« À vos postes !»
ordonna-t-il sèchement.
« Parangon, redresse-toi »
brailla-t-il. En cinq pas, il rejoignit les hommes qui trifouillaient les armes. Il saisit au collet les deux qui se chamaillaient, leur cogna la tête l'un contre l'autre, puis leur donna des lames moins tentantes. Il garda pour lui l'épée qu'il s'était disputée. Il jeta un coup d'œil circulaire.
« Jake, vous êtes chargé de distribuer les armes. » Une chacun, et si quelqu'un ne prend pas celle qui lui est attribuée, il se débrouillera sans. Les autres, en ligne. »
Il ordonna à trois matelots qui traînassaient de grimper dans la mâture, de guetter et de lui crier ce qu'ils voyaient. Ils bondirent de bon cœur, ravis d'abandonner leurs armes à ceux qui étaient plus désireux d'en découdre. Brashen se reprochait de n'avoir pas prévu ce chaos. Alors qu'Althea et les autres lui indiquaient les positions des canots, il hurlait ses ordres aux timoniers et aux hommes qui manœuvraient le gréement. Il estima qu'on serait en mesure d'échapper aux embarcations, mais de justesse. Quant au vaisseau derrière eux, eh bien c'était le même vent qui gonflait ses voiles. Parangon était en tête et il devait être capable d'y rester. C'était une vive nef, mille sabords. Elle devait être capable de distancer n'importe qui si elle avait les devants. Pourtant, malgré tout cela, Parangon traînait à réagir. Comme s'il résistait aux efforts déployés par l'équipage pour lui donner de la vitesse. L'angoisse déroula ses anneaux à l'intérieur de Brachen. Si Parangon ne se bougeait pas, les canaux le rattraperaient. En quelques minutes, le capitaine maîtrisa l'équipage sur le pont. Alors que la pagaille diminuait, il chercha à nouveau la voile des yeux. Où donc était l'homme dont il était en train de faire le travail? Il le repéra qui se dirigeait vers le gaillard d'avant. Plus inquiétant encore que le désordre de tout à l'heure, c'était l'équipe disciplinée qui entourait la voile. Composée surtout des esclaves affranchis qu'ils avaient fait sortir clandestinement de Terrilville, ce groupe flanquait le second comme une escorte personnelle. Ils portaient des arcs et des épées. Ils s'alignèrent sur le gaillard d'avant, que la voile arpentait d'un pas déterminé. Brachen sentit monter en lui une colère irrationnelle. La manière dont les hommes évoluaient autour de la voile était éloquente. Il formait son équipage d'élite. C'était à lui qu'ils obéissaient, non au capitaine. En traversant le pont, il sentit sa veste bridée par quelque chose. Il pivota, agacé, pour se libérer, et découvrit un cliff empourpré qui l'agrippait. Ses grands yeux bleus écarquillés, le gamin tenait un long couteau dans sa main droite. Il trembla sous le regard sévère du capitaine, mais ne lâcha pas prise.
« Suivez votre dos, capitaine !»
déclara-t-il. D'un mouvement de tête dédaigneux, il indiqua la voile et ses hommes qui l'entouraient.
« Attendez !»
conseilla Cliff en baissant la voix.
« Guettez-les une minute !»«
Lâche-moi !»
ordonna Brachen irrité. Le garçon obéit, mais le suivit comme son ombre quand il se dirigea vers le gaillard d'avant.
« Venez-y, je vais tous vous tuer, approchez !»
criait un parangon jubilant aux pirates. Brachen n'aurait pas reconnu sa voix, plus grave et plus rauque, si elle n'avait été aussi puissante. L'espace d'un instant, il éprouva la soif de sang du navire. La farouche et juvénile volonté de faire ses preuves se corsait du désir d'adulte d'écraser qui s'opposerait à lui. Il en fut glacé et plus glacé encore en entendant le rire sauvage de la voile. Était-il en train d'attiser inconsciemment les émotions violentes de Parangon?
Le second continua d'aiguillonner le navire. « Et comment, mon gars? Je te dis où cogner et tu les assommes. Remets-lui son bâton, femme, qu'il montre un peu à ces brutes de quoi c'est capable, une vive nef de Terrilville. »
C'est moi qui décide.
La voix d'Ambre n'était pas aiguë, mais elle portait.
Le capitaine m'a confié cette charge. C'est moi qui décide quand le navire a besoin d'une arme. On nous a donné l'ordre de fuir, pas de combattre.
Il crut percevoir une pointe d'effroi dans sa voix, mais la colère froide la masquait bien. D'un ton calme, grave, elle exhorta Parangon.
Il n'est pas trop tard. On peut encore les distancer. Personne n'est obligé de mourir.
Passe-moi mon bâton,
ordonna Parangon avec une note stridente sur le dernier mot.
« Je vais les tuer, ces salauds! Je vais tous les tuer !»
Brachen observait la scène sur le gaillard d'avant. Ambre, debout, cramponnée des deux mains à la perche de Parangon. La voile, agressif, mais malgré ses paroles et les hommes dans son dos, n'osant pas porter la main sur le bâton. Ambre regarda par-dessus lui vers la figure de proue.
« Parangon !»
implora-t-elle.
« Tu veux vraiment revoir le sang sur tes ponts ?»«
Donnez-le-lui !»
insista la voile.
« N'essayez pas de cacher tout un navire sous vos jupes, femme. Laissez-le se battre s'il en a envie. Nous ne sommes pas forcés de nous enfuir. »
La réponse de Parangon fut interrompue par un bruit nouveau. Derrière Brachen, un grappin atterrit sur le pont avec un son mat, cliqueta et accrocha la lisse avant de retomber à l'eau. Des cris d'enthousiasme résonnèrent en dessous et un autre grappin fut lancé.
« Abordage !»
cria Haff.
Port tribord, arrière !»
D'une voix d'acier, Brashen ordonna en se précipitant sur le gaillard d'avant.
« Lavoy, à l'arrière! Repoussez les abordeurs! Archers, à la lisse, et tenez les canons en respect! Parangon, réponds au timon, ne te vautre pas! Tu es un navire ou un radeau? Je veux qu'on sorte d'ici !»
Il y eut un imperceptible silence avant que Lavoy n'acquiesce.
« Bien, commandant !»
Il se dirigea vers l'arrière, suivi de ses hommes. Brashen ne put voir le coup d'œil qu'échangèrent le second et Ambre, mais il remarqua les lèvres pincées et blanches du charpentier. Ses mains étaient crispées sur l'arme qu'elle avait fabriquée pour le navire. Qu'aurait-elle fait si Lavoy avait voulu s'en emparer? Brashen classa l'incident dans sa mémoire pour s'en occuper plus tard. Il s'avança vers la lisse et se pencha pour crier à la figure de proue.
« Parangon, cesse de t'agiter comme ça et avance. Je préfère laisser cette vermine derrière moi que la combattre. »«
Je ne m'enfuirai pas !»
s'exclama sauvagement Parangon. Sa voix se cassa sur les mots comme celle d'un adolescent.
« Seuls les lâches s'enfuient. Il n'y a aucune gloire à fuir un combat !»«
Trop tard pour fuir !»
claironna Cliff, surexcité derrière lui.
« Ils nous ont eus, commandant !»
Consterné, Brashen fit volte-face et balaya le pont du regard. 5 ou 6 hommes avaient déjà abordé en 2 endroits. C'étaient des combattants expérimentés et ils tenaient leur formation en laissant l'espace libre derrière eux pour leurs camarades qui grouillaient sur les filins des grappins. Pour l'instant, ils ne cherchaient qu'à défendre le petit avantage qu'ils avaient pris et ils le défendaient fort bien. Les novices de Brashen attaquaient en masse, se bousculant les uns les autres. Un autre grappin atterrit sur le pont, glissa et s'accrocha. Dès qu'il fut fixé solidement, Brashen vit une main se tendre vers la rambarde. Ces hommes étaient si occupés à se battre qu'ils ne remarquèrent même pas la nouvelle menace. Seul Cliff s'écarta de lui d'un bond pour charger sur le Frontillac et affronter les pirates qui montaient à l'assaut. Brashen fut horrifié.
« Tout le monde, repoussez les abordeurs !»
rugit-il, et il se tourna vers Parangon.
« On n'est pas encore prêt, navire. Ils vont nous prendre si tu ne nous sors pas de là. Raisonnez-le »
cria-t-il à Ambre. Il bondit pour rejoindre Cliff, mais à son grand désarroi, il s'aperçut qu'Althea l'avait devancé. Alors que le gamin dardait son arme vers l'homme qui escaladait la lisse, elle essayait vainement de décrocher le grappin. Les 3 pattes étaient fichées dans le garde-corps, et le poids des hommes grouillant sur les filins faisait mordre plus profondément le métal dans le bois. Une longueur de chaîne fixée directement derrière le crochet empêchait les défenseurs de sectionner le grappin. Avant que Brashen ait pu les rejoindre, Cliff poussa un hurlement sauvage et s'élança, ivre de fureur, en brandissant son couteau. La lame se planta dans la gorge d'un pirate goguenard qui venait juste de passer un bras par-dessus la lisse. Rouge sombre, le sang jaillit de la barbe, gicla sur Cliff et Althea avant d'éclabousser le pont. La voix basse de Parangon apprit au capitaine que le navire l'avait senti. L'homme agonisant bascula en arrière. Brashen entendit le bruit de sa chute quand il s'écrasa lourdement sur le canot en dessous. Des cris lui indiquèrent que le choc avait fait des dégâts. Il écarta Althea d'un coup d'épaule.
« À l'abri !»
ordonna-t-il.
« En arrière !»
Il balança une jambe par-dessus la lisse, coinça l'autre dessous pour se maintenir fermement à califourchon. Il plongea brusquement en avant avec son épée, et lacéra la figure d'un pirate qui s'accrochait toujours au filin. La chance les avait favorisés. La chute du premier pirate avait submergé l'embarcation et renversé l'homme qui raidissait la ligne. Alors que le second pirate lâchait prise et tombait, Brashen saisit l'occasion. Il bondit en arrière sur le pont et d'une secousse détacha le grappin. Avec un cri de triomphe, il le lança à la mer. Il fit volte-face, radieux, s'attendant à voir Althea et Cliff partager sa victoire. Mais le visage de l'une était crispé de colère. Quant à l'autre, il regardait ahuri le couteau dans ses mains et le sang qui les couvrait. Un cri à l'arrière lui fit tourner la tête. Le combat avait pris mauvaise tournure là-bas. Il se pencha et secoua Cliff par l'épaule.
« Tu réfléchiras plus tard, fiston. Allez, viens !»
Ces paroles tirèrent le garçon de sa transe et il suivit Brashen qui chargeait sur le pont. Il lui sembla qu'au même moment le navire prenait soudain de la vitesse. En plongeant au cœur de la bataille, il fut brièvement soulagé qu'Althea ne l'ait pas suivi. 3 de ses hommes étaient couchés sur le pont, se roulaient et cognaient sur un pirate comme s'il s'agissait d'une bagarre de taverne. Il les enjamba d'un bond pour croiser le fer avec un tatoué au crâne chauve et luisant. Brashen laissa l'homme parer son cou afin de se fendre et d'atteindre sa vraie cible, le pirate qui venait de balancer une jambe par-dessus le garde-corps. Alors qu'il retombait en arrière en se tenant la poitrine, Brashen paya pour son audace. Le chauve lui porta un coup de poignard qu'il réussit presque à esquiver en se jetant sur le côté. Il sentit la lame mordre dans sa chemise et le tissu se fendre. Une ligne de feu le long de ses côtes le transperça de douleur. Il entendit le cri d'horreur de Cliff et le gamin plongea tête baissée. Il larda de coups de couteau les pieds et les mollets de l'homme qui, surpris, bondit en arrière pour éviter le garçon. Brashen se remit brusquement debout et des deux mains allongea sa lame. La pointe du poignard rencontra la poitrine du chauve et s'y enfonça profondément. L'homme heurta la lisse, bascula en arrière et passa par-dessus en hurlant. Brashen et Cliff avaient brisé le cercle magique des assaillants. Ces hommes se ruèrent en avant, transformant le combat en rixes. Ce genre de bagarre, ils comprenaient. Ils s'entassaient pêle-mêle sur les pirates qui restaient, les bourraient de coups de pied et les piétinaient. Brashen se retira de la mêlée et jeta un coup d'œil sur le pont. Dans la mâture, les hommes criaient que le navire pirate battait en retraite, alors que Parangon avait trouvé sa vitesse. Un bref regard à tribord lui apprit que la Voye et ses hommes paraissaient s'être occupés de leur contingent d'attaquants. Deux de ces hommes étaient à terre, mais bougeaient encore. Il restait trois pirates sur le pont, mais leurs compagnons dans leur canot leur hurlaient de sauter, d'abandonner. Des cris à la proue avertirent qu'il y avait un autre détachement d'abordage. Il était obligé de compter sur la Voye pour en finir à l'arrière. Il fonça avec Cliff toujours sur ses talons. Six hommes avaient atteint le pont. Pour la première fois, Brashen vit clairement le sceau noir sur leur mouchoir de tête rouge. C'était un oiseau aux ailes déployées. Un corbeau? L'emblème de Kenith? Ils tenaient leurs épées en garde, défendant le grappin derrière eux. Pourtant, d'en bas montaient les appels de leurs camarades.
« Lâchez, le capitaine nous fait signe de rentrer !»
Le détachement d'abordage hésitait, répugnant manifestement à perdre ce qu'il avait enlevé. Althea les menaçait avec une épée. Brashen jura tout bas. Au moins, elle avait eu le bon sens de ne pas engager la lutte. Ambre était tout près, tenant un poignard avec adresse, sinon avec agressivité. Clapeau, lui seul, couvrait les arrières d'Althea armés d'un bâton. La Voye l'avait décrété trop bête pour manier une arme blanche. Le grand escogriffe souriait avec enthousiasme, faisait claquer le bout de son gourdin sur le pont, et ses yeux élargis par la fièvre du combat paraissaient impressionner au moins un des abordeurs.
« On peut encore le prendre, ce navire !»
gronda un pirate sur le pont. L'épée toujours en garde, il cria aux hommes dans le canot.
« Allez, vous autres! Ils ont mis des femmes pour nous vider! « À 10, on peut prendre le navire !»
Il était grand. Son tatouage d'esclave sur la figure avait été recouvert par un oiseau aux ailes déployées.
« Allez-vous-en !»
La voix d'Ambre perça dans le vent et son ton en imposait singulièrement.
« Vous n'aurez pas le dessus. Vos amis vous ont abandonné. Vous allez mourir en essayant de prendre un navire que vous ne pourrez jamais tenir. » « Fuyez pendant qu'il en est encore temps. Même si vous nous tuez, vous ne pouvez diriger une vive nef contre son gré. Elle vous fera périr. »«
Vous mentez. Kenith a bien pris une vive nef. Il est toujours vivant. »
riposta un des hommes. La figure de proue éclata d'un rire sauvage. Les abordeurs ne pouvaient la voir d'où ils étaient, mais ils l'entendaient, ils sentaient le pont tanguer alors qu'elle agitait frénétiquement les bras dans tous les sens.
« Prenez-moi! Oh, allez-y! Venez à bord, mes petits poissons! Venez! Vous trouverez la mort sur moi !»
La folie du navire déferla dans l'air comme une lame, comme une odeur impossible à chasser. Elle les toucha tous de ses mains froides et moites. Althea blêmit. Ambre était décomposée. Le sourire débile disparut de la figure de Clapeau comme un phare qui fond et laissa place dans ses yeux à la démence.
« Je file !»
annonça un pirate. En une seconde, il avait enjambé la lisse et glissé le long du filin. Un autre le suivit sans un mot.
« Restez avec moi !»
brailla le chef, mais ses hommes ne l'écoutaient plus. Ils volaient par-dessus bord comme des chats affolés.
« Que la peste nous crève, tous !»
déclara le dernier. Il se tourna vers le filin, mais Althea avança brusquement sur lui et engagea le fer. En dessous, les hommes lui hurlaient de se dépêcher, ils allaient déborder. Sur le pont, elle annonça tout à coup.
« Celui-là, on le garde, on va lui demander ce qu'il sait sur Kenith. Ambre, dégage le grappin. Clapeau, aide-moi à le tenir !»
Tenir, pour Clapeau, se traduisit par un puissant moulinet de son bâton qui frôla dangereusement le crâne d'Ambre avant de s'abattre violemment sur la tête du pirate. L'homme tatoué s'effondra et Clapeau se mit à danser comme un endiablé une gigue triomphante.
« Je l'ai eu, j'en ai eu un !»
À l'abri. Les mots étaient des barbillons plantés dans la tête d'Althea. Tout en accomplissant ses tâches courantes afin de restaurer ordre et calme sur le pont, elle remâchait, ulcérée, les mots qui lui restaient sur le cœur. En dépit de tout, Brashen continuait à la considérer comme une femme vulnérable qu'il faut protéger du danger. « À l'abri !» lui avait-il dit. Et il avait pris son poste à elle. D'une secousse, il avait détaché le grappin qui lui avait résisté à elle, parce qu'elle était moins forte. Il l'avait humiliée en lui démontrant qu'on ne pouvait pas compter sur elle malgré tous ses efforts. Incompétente. Cliff avait été témoin. Non qu'elle désirât se battre et tuer. Ça, elle le savait, elle tremblait encore de tous ses membres après ce premier affrontement. Depuis le moment où les pirates avaient commencé à escalader le bord, elle avait été saisie d'angoisse. Pourtant, elle continuait à agir. Elle n'était pas restée figée sur place. Elle n'avait pas piaillé. Elle ne s'était pas enfuie. Elle avait fait de son mieux pour remplir son devoir. Mais cela n'avait pas suffi. Elle voulait que Brashen la tienne pour un marin accompli et un officier. Il avait montré clairement que ce n'était pas le cas. Elle grimpa dans la mâture pour surveiller la poursuite et aussi pour jouir d'un moment de silence et de solitude. Seul Kyle avait su provoquer en elle pareille colère. Elle avait peine à croire que Brashen l'ait blessée de la même façon. Durant un instant, elle pressa le front sur une ligne qui vibrait et ferma les yeux. Elle avait cru que Brashen la respectait, bien plus qu'il avait de l'affection pour elle. Et maintenant voilà. C'était d'autant plus amer qu'elle avait prudemment gardé ses distances, qu'elle s'était écartée quand elle désirait être proche de lui pour se prouver à elle-même qu'elle était forte et indépendante. Elle avait affecté de croire que s'ils observaient un certain éloignement, c'était pour préserver la discipline sur le navire. Se pouvait-il qu'il ne la considère que comme une distraction, un divertissement à repousser tant qu'ils étaient en route? Tout lui était refusé. Il lui était interdit de se montrer en tant que femme qui le désirait et en tant que compagnon de bord qui méritait son respect. Qu'était-elle alors pour lui? Un bagage? Une responsabilité superflue? Lors de l'attaque, il ne l'avait pas traitée en camarade capable de lui prêter main forte, mais comme quelqu'un qu'il se devait de protéger tout en essayant de défendre son navire. Elle descendit lentement du mât puis se laissa tomber sur le pont. En son fort intérieur, elle sentait vaguement qu'elle était injuste. Mais elle était dans une telle disposition d'esprit, bouleversée par l'attaque des pirates, qu'elle s'en moquait. Son face-à-face avec des hommes armés qui l'auraient volontiers taillé en pièces l'avait transformée. Terrilville, la sécurité, la générosité, tout cela était à des lieues derrière elle. C'était une nouvelle vie. Si elle voulait survivre dans ce monde, elle avait besoin de se sentir compétente et forte, non pas protégée et vulnérable. Le discours dans sa tête se tut subitement quand elle se trouva confrontée à la vérité. Voilà pourquoi elle était tellement enragée contre Brashen. Par son attitude, il l'avait forcé à reconnaître sa propre faiblesse. Telle la bave de serpent, les paroles avaient rongé sa confiance en soi. Son courage bricolé, sa volonté têtue de se battre et d'agir comme si elle était physiquement l'égale de l'homme, s'était dissous. Même à la fin, c'était Clapeau qui avait abattu le dernier homme à sa place. Clapeau, le presque demeuré, était plus précieux qu'elle au combat, simplement parce qu'il était grand et qu'il avait des biceps. Jack s'approcha comme un rôdeur, les joues encore empourprées par la fièvre du combat. Elle arborait un large sourire satisfait.
« Le capitaine veut vous voir au sujet du prisonnier. »
C'était dur de lever les yeux vers le visage plein d'assurance de Jack. À cette minute, Althea aurait tout donné, ou presque, pour être aussi grande et aussi forte que cette femme. « Le prisonnier ? Je croyais qu'on en avait plusieurs. » Jack secoua la tête.
« Quand Clapeau a balancé son bâton, il ne rigolait pas. L'homme ne s'est pas réveillé. Les yeux lui sont sortis de la tête. Il a commencé à gigoter et puis il est mort. Dommage. Je crois qu'il était le chef du détachement d'abordage. C'est sans doute lui qui aurait pu nous en apprendre le plus. Les hommes que la Voye gardait ont essayé de sauter par-dessus bord. Deux y sont arrivés et un autre est resté sur le pont pour le compte. Mais il y a un survivant. » « Le capitaine a l'intention de l'interroger et il veut que vous soyez là. »«
J'y vais tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous pendant l'abordage ?»
Jack eut un large sourire.
« Le capitaine m'a chargé de faire passer les armes. Je crois qu'il a vu que je ne perdais pas la tête, contrairement à d'autres. Mais je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de me servir de ma lame. »«
Peut-être la prochaine fois ?»
rétorqua Althea sèchement. La grande femme lui lança un regard déconcerté, comme si elle avait essuyé une réprimande. Mais Althea se borna à demander « Où sont-ils ? Dans la chambre du capitaine ?»«
Non, sur le gaillard d'avant. » »«
Près de la figure de proue ? À quoi pense-t-il ? »
Jack n'avait pas la réponse. Althea n'en attendait pas, du reste. Elle s'éloigna précipitamment pour constater par elle-même. En s'approchant, elle fut contrariée de voir Brashen, Ambre et la Voye déjà rassemblés autour du prisonnier. Elle se sentit blessée. Brashen avait-il fait chercher les autres avant de l'appeler elle? Elle tâcha de réprimer sa colère et sa jalousie qui semblaient pourtant s'être bien ancrées en elle. Elle ne souffla pas mot en montant sur le gaillard d'avant. Le seul prisonnier rescapé était un jeune homme. Il avait été rossé et étranglé lors de sa capture, mais à part quelques bleus et enflures, il ne paraissait pas trop mal en point. Plusieurs tatouages d'esclaves s'étalaient sur sa joue. Il avait une épaisse toison de cheveux bruns rebelles que son mouchoir rouge ne réussissait pas à discipliner. Dans ses yeux noisettes, on lisait à la fois l'effroi et le défi. Il était assis sur le pont, les poignets ligotés derrière le dos, les chevilles enchaînées. Brashen le dominait, la Voye à son épaule. Ambre, les lèvres pincées, se tenait à l'écart du groupe. Elle ne cachait pas sa réprobation. Une poignée de matelots traînait sur le frontillac pour assister à l'interrogatoire. Cliff était parmi eux. Althea lui décocha un regard noir, mais les grands yeux du gamin étaient fixés sur le prisonnier. Seuls deux tatoués de l'équipage étaient présents, le visage impénétrable, le regard froid.
« Parle-nous de Kenneth. »
La voix de Brashen était posée, mais à son intonation, on devinait qu'il répétait sa question. Le pirate regardait droit devant lui, impassible. Il ne pipa pas.
« Laissez-moi tenter le coup, capitaine !»
supplia la Voye, et Brashen ne s'y opposa pas. Le robuste second s'accroupit à côté de l'homme, le saisit aux cheveux et le força à croiser son regard.
« C'est par là, mon joli coco !»
grogna la Voye. Il montrait les dents dans un sourire carnassier.
« Tu te rends utile en nous parlant. Ou tu passes par-dessus bord. Alors, tu choisis quoi ?»
Le pirate avala un peu d'air.
« Que je parle ou non, je passerai par-dessus bord. »
Il y avait presque un sanglot dans ses paroles et il parut soudain plus jeune à Althea. Mais sa réponse excita la cruauté de la Voye plutôt que sa pitié.
« Alors parle, personne ne le saura et peut-être que je t'assommerai avant de te laisser couler. Où il est, ce Kenneth ? C'est tout ce qu'on veut savoir. Tu portes son emblème, tu dois savoir où il crèche. »
Althea décocha à Brashen un coup d'œil incrédule. Elle voulait en savoir plus. Y avait-il des survivants de l'équipage de Vivacia? Comment allait la Vivnef? Y avait-il un espoir de la reprendre en payant une rançon? Mais le capitaine ne disait pas un mot. Le prisonnier secoua la tête. La Voy le gifla sans violence, mais la claque suffit à le faire basculer. Avant qu'il ait pu se redresser, la Voy le tira par les cheveux pour le rasseoir.
« Je t'ai pas entendu !»
ricana-t-il.
« Vous allez... »
commença Ambre furieuse, mais Brashen l'interrompit brutalement avec un
« Suffit !»
Il s'approcha du prisonnier. « Parle. Dis-nous ce qu'on veut savoir et peut-être qu'on te laissera la vie. » Le pirate prit une respiration hachée.
« Je préfère mourir plutôt que trahir Kenith !»
répondit-il sur un ton de défi. D'une secousse, il se dégagea de l'étreinte de la Voy.
S'il préfère mourir,
intervint brusquement Parangon,
je peux lui donner un coup de main.
Sa voix éclata, empreinte d'une telle malignité que les cheveux d'Althea se dressèrent sur sa nuque.
Lance-le-moi, la Voy. Il parlera avant que je le jette à la mer.
Suffit.
Althea s'entendit répéter le mot de Brashen. Elle s'approcha du prisonnier et s'accroupit pour être au niveau de ses yeux.
« Je ne te demande pas d'être déloyale envers Kenith, » dit-elle doucement.
« Qu'est-ce que vous croyez ?»
commença la Voy, outrée, mais Brashen l'interrompit.
« La Voy, reculez, c'est le droit d'Althea. »«
Son droit ?»
Le second était à la fois incrédule et furieux.
« Taisez-vous ou quittez le pont, »
répliqua Brashen d'une voix sans timbre. La Voy ferma le bec, les joues cramoisies. Althea ne leur accorda pas un regard. Elle considéra le prisonnier jusqu'à ce qu'il lève la tête et croise ses yeux.
« Parle-moi de la Vivnef que Kenith a prise, Vivacia. »
D'abord, l'homme se borna à la regarder, puis ses narines se pincèrent et le pourtour de ses lèvres blanchit.
« Je sais qui vous êtes, » cracha-t-il.
« Vous ressemblez au jeune prêtre. Vous pourriez être jumeaux. »
Il tourna la tête et cracha sur le pont.
« Vous êtes une sale havre, je ne vous dirai rien. »«
Je suis une vestrite, pas une sale havre, »
rétorqua Althea indignée.
« Et la Vivacia est notre navire familial. Tu parles de mon neveu, Yémin. Alors, il est vivant ?»«
Yémin, c'est ça. »
Les yeux de l'homme étincelèrent avec férocité.
« J'espère bien qu'il est mort. » Il mérite la mort et pas une mort rapide. Oh, il jouait au petit saint. Il nous a porté un seau d'eau salée, un chiffon. Il rampait dans la cale puante comme s'il était des nôtres. Mais tout ça, c'était de la comédie. Depuis le début, il était le fils du capitaine. Il y en avait qui disaient qu'on devrait lui être reconnaissant, qu'il a fait ce qu'il a pu pour nous et que, si on s'est libéré, c'est grâce à lui. Mais moi, je crois qu'il a été un sale espion tout le temps. Sinon, comment il aurait pu nous regarder et nous laisser enchaîner en bas si longtemps? « Dites-moi voir. »«
Tu étais esclave à bord de la Vivacia, »
releva Althea à mi-voix. Ce fut tout. Pas de questions, pas de discussions. L'homme parlait et lui en révélait beaucoup à son insu.
« J'étais esclave sur votre navire, oui. »
Il secoua la tête pour repousser ses cheveux de ses yeux.
« Vous le savez bien. Me dites pas que vous reconnaissez pas le tatouage de votre famille. »
Malgré elle, elle le dévisagea. Le dernier tatouage sur sa figure était un point serré. Voilà qui s'accordait avec Kyle. Althea inspira et expliqua doucement.
« Je ne possède pas d'esclave. Et mon père n'en avait pas non plus. Il m'a élevé dans l'idée que l'esclavage était mal. Il n'y a pas de tatouage vestrite. Il n'y a pas d'esclave vestrite. C'est Kyle Havre le responsable de ce qu'on t'a fait, pas ma famille.
« Vous vous défilez, hein? Comme votre petit prêtre ?» Il devait bien savoir ce qu'on nous faisait. Ce salaud de Torg. Il venait la nuit pour violer les femmes sous nos yeux. Il en a tué une. Elle a commencé à crier et il lui a fourré un chiffon dans la bouche. Elle est morte pendant qu'il la baisait. Et ça l'a fait rire. Il s'est levé, il est parti en la laissant comme ça, enchaînée à deux hommes de moi. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Le lendemain, des matelots sont venus. Ils l'ont enlevée en la traînant et l'ont donnée à bouffer au serpent.
Les yeux de l'homme s'étrécirent.
Ça aurait dû être vous, jambes écartées, étouffées. Rien qu'une fois, ça aurait dû être une de vous.
Althea ferma brièvement les yeux. L'image était trop nette. Près de la lisse, Ambre se retourna brusquement pour faire face à la mer.
« Ne lui parle pas comme ça !»
ordonna Brashen rudement.
« Ou je te jette moi-même par-dessus bord !»«
Ça m'est égal !»
intervint Althea.
« Je comprends pourquoi il dit ça. Laissez-le parler. »
Elle se concentra sur le prisonnier.
« Ce que Kyle Havre a fait avec votre navire était mal, je le reconnais. »
Elle se força à lui retourner son regard agressif.
« Je veux reprendre Vivacia. Et quand je l'aurai reprise, il n'y aura jamais un seul esclave à bord, c'est tout. Dis-nous où on peut trouver Kenith. On paiera la rançon pour le navire, c'est tout ce que je veux, seulement le navire et les membres d'équipage survivants. »
« Il n'y en a pas d'état. »
Les paroles d'Althea n'avaient pas modifié l'état d'esprit du pirate. Au contraire, il paraissait deviner sa vulnérabilité et avoir envie de la blesser. Il la regarda fixement.
« La plupart étaient morts avant que Kenith mette le pied sur le pont. J'en ai refroidi deux moi-même. C'était un beau jour quand il est venu à bord. Ces hommes ont passé un bon bout de temps à tous les balancer au serpent. Et qu'est-ce qu'il pouvait hurler le navire pendant ce temps-là ?»
Les yeux rivés à Althea, il tâchait de deviner s'il l'avait atteinte. Elle ne feignit pas l'indifférence. Elle s'assit lentement sur ses talons. Il faudrait regarder tout ça en face. Elle n'était pas une Havre, mais le navire appartenait à sa famille. C'était l'argent de sa famille qui avait servi à acheter les esclaves et l'équipage de son père qui les avait enchaînés dans le noir. Elle n'éprouvait pas de sentiment de culpabilité. Non, ce sentiment-là, elle le réservait pour ses propres méfaits. Mais elle se sentait une lourde responsabilité. Elle aurait dû rester, combattre Kyle jusqu'au bout. Elle n'aurait jamais dû laisser Vivacia entreprendre cette ignoble traversée.
« Où peut-on trouver Kenith ?»
L'homme se lécha les lèvres.
« Vous voulez votre vive nef ? Eh bien, vous l'aurez pas. Kenith l'a prise parce qu'il la voulait, et elle le lui rend bien. Elle lui lècherait les bottes si elle le pouvait. Il lui fait le boniment comme à une putain de rien, et elle, elle gobe tout. Je l'ai entendu lui parler un soir. Il l'entortillait pour qu'elle devienne pirate. Elle a marché. Elle vous reviendra jamais. Elle en a soupé du transport d'esclaves. Elle fait de la piraterie avec Kenith maintenant. Elle porte ses couleurs, comme moi. »
Il mesura d'un regard l'impact de ses paroles.
Transporter des esclaves, ça la répugnait. Elle a été reconnaissante à Kenith de l'avoir libérée. Elle voudra jamais revenir avec vous. Et Kenith, il voudra jamais vous la rendre, même pour une rançon. Il l'aime. Il dit qu'il a toujours voulu une vive nef. Maintenant, il en a une.
Menteur !
Le rugissement éclata. Il ne venait pas d'Althea, mais de Parangon.
Espèce de sale menteur, donnez-le-moi. Je vais la lui sortir des tripes, moi, la vérité.
Ce fut comme si Parangon, à son tour, l'avait souffleté. Décomposé, étourdi par le choc, Althea se leva lentement. Les paroles du pirate avaient touché une peur profondément enfouie. Elle savait que le transport d'esclaves avait dû changer Vivacia. Mais à ce point, au point qu'elle se retourne contre sa famille et qu'elle décide de prendre une nouvelle direction avec quelqu'un d'autre ?
Pourquoi pas ?
Althea ne s'était-elle pas aussi détournée de sa famille et avec beaucoup moins de raison ? Elle fut envahie par un horrible mélange d'émotions. La jalousie, la déception, le sentiment d'avoir été trahie. C'est ce que doit éprouver une femme qui découvre l'infidélité de son mari. C'est ce que doivent éprouver des parents en apprenant que leur fille est devenue une prostituée. Comment Vivacia avait-elle pu agir ainsi ? Et comment Althea avait-elle pu l'abandonner ? Qu'allait devenir sa belle vive nef dévoyée désormais ? Pourrait-elle jamais être comme avant, un seul cœur, un seul esprit, voguant sur la mer vent debout ?
Parangon continuait à vociférer des menaces aux pirates, à supplier qu'on le lui livre. Il lui arracherait la vérité, oui, et il lui ferait dire la vérité sur ce salaud de Kenith.
Althea l'entendait à peine. Brashen lui prit le coude. On dirait que vous allez vous évanouir, demanda-t-il tout bas. Vous sentez-vous capable de vous en aller? De garder votre dignité devant l'équipage? Ces paroles l'achevèrent. Elle se dégagea d'un mouvement brusque.
Ne me touchez pas!
Siffla-t-elle hargneusement.
Dignité, s'exhorta-t-elle. De la dignité!
Mais elle eut bien du mal à s'empêcher de hurler sur lui comme une harangère. Il recula, horrifié, et elle vit une étincelle de colère s'allumer au fond de ses yeux. Elle se redressa, luttant pour se maîtriser. Luttant, elle le comprit tout à coup, pour séparer ses émotions de celles de Parangon. Elle se tourna vers le prisonnier et la figure de proue une fraction de seconde trop tard. La Voy avait tiré le pirate sur ses pieds et le maintenait contre la lisse. De deux choses l'une. Soit la Voy allait simplement le pousser par-dessus bord, ligoté tel qu'il était, soit il allait le frapper. La joue de l'homme était rouge. Il y avait eu au moins un coup. Ambre avait arrêté le bras de la Voy. Elle paraissait étonnamment grande soudain. Althea fut surprise qu'une femme aussi svelte ait assez de force pour retenir le bras de la Voy. Son expression semblait avoir pétrifié le second. Sur son visage, ce n'était pas la peur qu'on lisait. Il était ébranlé par ce qu'il voyait dans les yeux d'Ambre. Althea comprit trop tard la véritable menace. Parangon s'était tordu jusqu'à l'extrême limite. Il tendait une main en cherchant à l'aveuglette.
« Non !»
s'écria-t-elle, mais les énormes doigts de bois avaient trouvé le prisonnier et l'arrachèrent facilement à l'étreinte de la Voy. Le pirate s'égosillait, le cri d'Ambre
« Oh, Parangon, non, non, non !»
couvrit ses hurlements. Parangon se tourna, serrant le pirate dans ses mains. Il voûta les épaules au-dessus de sa proie comme un enfant qui dévore une friandise volée. Il marmonna férocement quelque chose à l'infortuné qu'il secouait dans tous les sens, comme une poupée de chiffon, mais Althea n'entendit que les supplications d'Ambre.
« Parangon, je t'en prie, Parangon !»«
Navire, remets-le immédiatement sur le pont !»
rugit Brachen. L'ordre était comminatoire, mais Parangon ne tressaillit même pas. Althea se retrouva cramponnée des deux mains à la lisse, penchée désespérément en avant.
« Non !»
supplia-t-elle, mais si la figure de proue l'entendit, elle ne le manifesta pas. La Voy observait, les yeux étrangement avides, avec une grimace qui découvrait ses dents blanches. Parangon projeta la tête tout près de l'homme qu'il serrait étroitement dans ses mains. Durant un instant horrifiant, Althea crut qu'il allait le décapiter d'un coup de dent, mais il se figea, comme s'il écoutait attentivement, puis...
« Non !»
s'écria-t-il.
« Kenith n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il rêvait d'avoir une vive nef à lui. Tu mens! Tu mens !»
Il secouait l'homme. Althea entendit les os craquer. Le pirate hurla. Parangon le lança violemment au loin. Le corps fila roue dans le soleil brillant, mordit brutalement sur la mer scintillante. Il y eut un bruit d'éclaboussement. Puis, il disparut. Les chaînes à ses chevilles entraînèrent par le fond ce qu'il restait de lui. Althea contempla, hébété, l'endroit où il s'était englouti. Voilà. Parangon avait tué, de nouveau. « Oh, navire !» gémit Brachen d'une voix grave à côté d'elle. Parangon fit pivoter sa tête pour les fixer de son regard d'aveugle. Il serra les poings et les tint devant sa poitrine, comme s'il avait voulu dissimuler son acte. Il déclara d'une voix effrayée et provocante de petit garçon.
« Je l'ai fait parler. Partage. On trouvera Kenith à Partage. Il a toujours bien aimé Partage. »
Constatant le silence du groupe assemblé sur le gaillard d'avant, il prit un air mauvais.
« Eh bien, c'est ce que vous vouliez, non ? Découvrir où était Kenith, c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait parler.
Ça pour sûr, mon gars,
fit remarquer la Voy d'un ton bourru. Même lui semblait impressionné par l'acte de Parangon. Il secoua lentement la tête. D'une voix basse, destinée à n'être entendue que des hommes, il ajouta
« Je ne croyais pas qu'il le ferait. »
« Si, vous le croyez, »
contredit Ambre carrément. Elle toisa la voile d'un regard perçant.
« C'est pour ça que vous avez mis cet homme à portée de Parangon, pour qu'il puisse le prendre, parce que vous vouliez qu'il meure, comme les autres prisonniers. »
Ambre tourna brusquement la tête pour dévisager les tatoués de l'équipage qui observaient la scène en silence.
« Vous étiez de mèche. Vous saviez ce qu'il allait faire, mais vous n'avez pas bougé. Voilà ce qu'il a révélé en vous, le pire des méfaits de l'esclavage. »
Elle reporta son regard sur le second.
« Vous êtes un monstre, Lavoy. Pas seulement pour ce que vous avez fait à cet homme, mais à cause de ce que vous avez réveillé dans ce navire. Vous essayez de le transformer en brute, comme vous. »
D'un mouvement vif, Parangon détourna sa tête défigurée.
« Alors tu ne m'aimes plus. Eh bien, je m'en fiche. Si pour que tu m'aimes, il faut que je sois faible, alors je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Voilà !»
Qu'il reprenne son discours puéril après avoir tué brutalement, Althéaon resta paralysé d'horreur. Qu'était-ce donc que ce navire ? Au lieu de répondre en paroles, Ambre se baissa lentement et posa le front sur ses mains qui agrippaient la lisse. Althea ne savait si elle pleurait ou si elle priait. Elle se cramponna au bois sorcier comme si elle avait pu s'y couler.
« Je n'ai rien fait !»
protesta la voile. Aux oreilles d'Althea, c'étaient les paroles d'un lâche. Il regarda son équipe de tatoués.
« Tout le monde a vu ce qui s'est passé, ce n'est pas ma faute. C'est le navire qui a pris les choses en main dans tous les sens du mot. Taisez-vous »
leur ordonna Brashen.
« Taisez-vous donc !»
Il arpenta vivement le pont. Il parcourut du regard l'équipage silencieux rassemblé sur le gaillard d'avant. Ses yeux parurent s'attarder sur Cliff. Le garçon tout pâle avait les mains plaquées sur la bouche. Ses yeux étaient brillants de larmes. Brashen reprit la parole d'une voix dénuée d'émotion.
« Nous allons tailler de la route vers Partage. L'équipage s'est comporté de façon exécrable au cours de cette attaque. Vous subirez un entraînement renforcé. » Les officiers comme les matelots. Je vous ferai connaître à chacun votre place et votre devoir, et vous agirez promptement en fonction. »
Il laissa encore errer son regard sur les visages. Althea ne l'avait jamais vu aussi âgé ni aussi là. Il se retourna vers la figure de proue.
« Parangon, ta punition pour avoir désobéi à mes ordres sera l'isolement. Personne ne doit parler au navire sans mon autorisation. Personne »
répéta-t-il alors qu'Ambre allait protester.
« Personne ne doit mettre les pieds sur le gaillard d'avant à moins d'y être contraint par le service. Maintenant, dégagez tout le monde et retournez à vos tâches, immédiatement. »
Brashen demeura en silence tandis que l'équipage se dispersait sans un mot vers le pont ou les couchettes selon les exigences de leur car. Althea s'éloigna comme les autres. Elle ne le reconnaissait plus. Comment avait-il pu laisser faire tout cela? Ne voyait-il donc pas quelle sorte d'homme était ce Lavoy, ce qu'il faisait au navire? Brashen avait mal. Ce n'était pas tant la longue estafilade sur ses côtes qui le faisait souffrir. Ça savait pourtant à quel point elle le brûlait et le piquait. Ses mâchoires, son dos, son ventre, tout était endolori, crispé. Même sa figure lui faisait mal. Mais il ne pouvait se rappeler comment détendre ces muscles-là. Althea l'avait regardé avec une véritable aversion. Il ne comprenait pas pourquoi. Sa vive nef, sa fierté, son parangon avait tué avec une sauvagerie bestiale qui le rendait malade. Il ne l'aurait pas cru capable d'un tel acte. Il était presque certain à présent que la voile liguait contre lui non seulement les hommes, mais le navire lui-même en vue d'une mutinerie. Ambre avait raison. Bien qu'il regrettât qu'elle se fût exprimée tout haut. Pour des raisons qu'il ne discernait pas clairement, Lavoy avait veillé à ce qu'on ne fît pas de quartier aux prisonniers. Il était accablé. Pourtant, il devait faire face à tout cela, sans jamais montrer son trouble, ne fût-ce que par une crispation du visage. Il était le capitaine. C'était le prix à payer. Alors qu'il désirait plus que tout confondre la voie ou prendre Althea dans ses bras ou exiger de Parangon une explication, il devait carrer les épaules et se tenir droit, garder sa dignité. Pour le bien de son équipage et de son commandement, il se devait de ne rien ressentir. Il demeura sur le gaillard d'avant et les regarda se disperser docilement. La voie s'en alla en jetant derrière lui un regard plein de rancœur. Althea s'éloigna d'un pas mal assuré, découragé. Il espérait que les deux autres femmes auraient le tact de la laisser seule quelque temps. Ambre fut la dernière à quitter le gaillard d'avant. Elle s'arrêta près de lui, comme si elle voulait parler. Il croisa son regard et secoua silencieusement la tête. Il ne fallait pas que Parangon puisse croire que quiconque bravait ses ordres. Il devait sentir que la réprobation était générale. Dès qu'Ambre eut disparu, Brachen lui emboîta le pas. Il ne dit pas un mot au navire. Et il se demanda si Parangon l'avait même remarqué. Parangon s'essuya subrepticement les mains sur la proue. Le sang, c'était tellement collant, collant et riche de souvenirs. Il lutta, refusant d'assimiler l'homme qu'il avait tué, mais le sang finit par avoir raison de lui. Il imprégnait ses mains de bois sorcier, riches, rouges et chargées d'émotions. La terreur et la douleur étaient les plus fortes. Eh bien, comment s'était-il attendu à mourir, celui-là, en se faisant pirate? Il l'avait bien cherché. Ce n'était pas la faute de Parangon. L'homme aurait dû parler quand la voie l'avait interrogé. Alors le second l'aurait tué en douceur. D'ailleurs, le pirate avait menti. Il avait dit que Kenith aimait Vivacia, qu'il répétait qu'il voulait une vive nef à lui tout seul. Pire, que Vivacia s'était liée à lui. Impossible. Elle n'était pas de sa famille. Alors l'homme avait menti et il était mort. Brachen était très fâché contre lui. C'était sa faute à Brachen, s'il était fâché. Il n'arrivait pas à comprendre qu'on tue quelqu'un qui vous a menti. C'était pourtant simple à comprendre. Il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'il ne comprenait pas à Brachen. Pas comme la voie. La voie venait le voir, lui parler, il lui racontait des histoires de mère, il l'appelait « mon gars » et il comprenait. Il comprenait que Parangon ne pouvait être autrement, qu'il était obligé d'agir comme il le faisait. La voie lui disait qu'il n'avait pas à avoir honte, qu'il n'avait rien à regretter. Il convenait que c'était les autres qui l'avaient poussé à faire ce qu'il avait fait. Brachen et Althea et Ambre, tous ils voulaient qu'il soit comme eux. Ils voulaient qu'il fasse comme s'il n'avait pas de passé, pas de passé du tout. Qu'il soit ce qu'il voulait qu'il soit. Sinon, il ne l'aimerait pas. Mais il ne pouvait pas. Il avait en lui trop de sentiments qu'il n'aimerait pas, il le savait. Ce qui ne voulait pas dire qu'il pouvait s'empêcher de les éprouver, ces sentiments. Trop de voix qui lui ressassaient sans fin ses mauvais souvenirs, de toutes petites voix qu'il entendait à peine. De toutes petites voix de sang qui geignaient du fond de son passé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire alors? Elle ne se taisait jamais, jamais vraiment. Il avait appris à ne pas les écouter, mais elle ne disparaissait pas pour autant. Et puis, il avait en lui des côtés encore pires que ces voix-là. Il s'essuya à nouveau les mains sur la coque. Ainsi, personne ne devait lui parler désormais. Il s'en fichait. Il n'avait pas besoin de parler. Il pouvait passer des années sans parler ni même bouger. C'était déjà arrivé. Il doutait que la voie obéisse de toute façon. Il écouta le martèlement des pieds nus sur le pont. Les hommes se hâtaient d'exécuter les ordres du second. Il laissa l'autre partie de lui-même prendre le dessus. On le punissait. Et comme ça, on croyait qu'il allait naviguer tout guilleret jusqu'à Partage. Eh bien, on allait voir. Il croisa les bras sur sa poitrine et poursuivit aveuglément sa route.